Aujourd'hui, nous accueillons pour cette première rencontre qui est consacrée au projet Au fil de l'eau. Nous accueillons Arthur Bouillet, qui est chargé de mission pour le comité de développement de l'agriculture et qui, à ce titre, pilote particulièrement ce projet-là, mais bien d'autres aussi. Hein. Nous accueillons également Gérard Sage, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Gérard a une très très grande expérience en agriculture, puisqu'il a exercé pendant près de 40 ans, que ce soit comme éleveur de brebis, et puis par la suite comme maraîcher, et il a aussi aidé ses enfants Julien et Émilie à s'installer. Il connaît donc très très bien les lieux, le territoire, le potentiel, et les problématiques dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet et parler de l'eau en agriculture, mais un petit peu de manière même plus générale, Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous rappeler, pour ceux qui ont déjà des petites notions, ce qu'est le comité de développement de l'agriculture et en quoi consiste le projet Au fil de l'eau, s'il te plaît.
Bonjour à tous, donc oui, je suis Arthur Bouillet, chargé de mission du comité de développement de l'agriculture. Donc le CDA est une association qui regroupe plusieurs structures de l'île-Dieu, donc la mairie, des associations locales, parmi lesquelles donc Yeux Demain et le collectif agricole, la coopérative foncière Terzilaise, la SCCI Terzilaise, des agriculteurs membres et des citoyens. Donc n'importe qui en tant que citoyen peut adhérer à l'association. Donc le CDA porte le projet de développement agricole sur l'île-Dieu, à travers deux actions principales. Sur la question foncière, donc essayer de soutenir les agriculteurs et mettre en place les conditions qui vont permettre à d'autres agriculteurs de s'installer en mobilisant des terrains et en mettant en état les terrains. Et l'autre sujet, c'est la question de l'eau, puisqu'on ne développe pas l'agriculture sans eau forcément. Et donc il y a pas mal de choses à voir en amont de l'installation ou même dans l'accompagnement d'un agriculteur qui est déjà en activité sur quelle technique, enfin quelle... soutien, quel support mettre en place pour que la gestion de l'eau soit la plus efficace possible.
Alors là, Gérard, toi qui connais bien le territoire et donc l'agriculture, parce que tu as vraiment mis les mains dans la terre, on peut le dire, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'agriculture, qu'est-ce que c'était à l'île-Dieu? Parce que ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui. À un moment donné, l'île-Dieu était bien loin, est toujours d'ailleurs, bien loin du continent, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas l'eau du continent hein, comme aujourd'hui. L'activité économique, c'était pas du tout le tourisme, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça?
Bonjour, d'abord. Au 19e siècle, qui est un peu la référence de la période où l'activité agricole était intense et concernait surtout les îlets, puisque quand je regarde quand même dans la salle, on s'aperçoit que les motivations pour l'agriculture des îlets a disparu justement au début du 20e siècle. C'est-à-dire que les îlets se sont tournés vers des activités plus rémunératrices, la pêche par exemple, le cabotage et autres, et ont eu un certain éloignement et ont même considéré, je me rappelle quand je me suis installé, je ne gênais personne, parce que les îlets trouvaient un peu dégradant, dépassé cette notion d'agriculture. C'était un truc fait pour les maraîchins, quoi. Les maraîchins, bon, qui sont venus après, par ailleurs, essayer les survivants du maraîchage chez les maraîchins dans le marais breton, en face. Et comment dire, c'est vrai que progressivement, mais on est obligé d'aller vite, les îlets se sont éloignés de tout ce qui concerne l'agriculture, laissant un peu aux nouveaux arrivants le soin de s'en occuper. Et je fais partie de cette génération qui a commencé à utiliser l'abandon des terres et par de l'élevage. Et l'élevage, je l'ai fait en commençant au niveau de la bergerie jusqu'au vieux château, enfin dans un secteur qui était très maigre et qui n'intéressait surtout pas les maraîchers. Mais comme je me suis intéressé donc à ce quartier-là, j'ai continué, parce qu'il le fallait, à faire du maraîchage dans des zones qui jamais n'auraient dû convenir, quoi. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ah oui, alors, si quand j'ai commencé l'élevage de moutons, en fait, le problème de l'eau n'existait pas parce que les troupeaux de moutons est très, résistants à la sécheresse et tout. Et il y avait de l'eau dans les rochers. Quand je suis arrivé avec les moutons, l'eau dans certaines failles arrivait à la mer. Et c'est eux qui m'ont montré où c'était. C'est-à-dire que c'était au niveau de la mer, c'est-à-dire qu'on aurait pu considérer que c'était de l'eau salée, et ils sont allés là. Donc j'ai compris qu'à ce moment-là, le problème de l'eau n'existait pas en élevage ovin. Et puis, à l'intérieur, quand on arrive plutôt vers l'intérieur, là où l'herbe est un peu plus haute, hein, parce que les bovins sont plus exigeants en hauteur, donc en qualité de terre, hein, la qualité de la terre, dans tous les villages d'équerre, il y avait des zones où l'herbe était plus haute. Alors que les moutons se satisfaisaient des prairies, des pelouses maritimes et autres, comme les chevaux, les équins. Hein. Les équins, ils ont une façon de pâturer très près du sol, hein, trop près du sol, même pour certains, parce qu'ils surpâturent. Enfin, bon. Ça, c'est une petite anecdote, mais les chevaux et les moutons étaient plus adaptés. Et donc, le fil de l'eau ne les concernait pas. Les vaches, après, qui a été l'élevage le dominant jusqu'à ces dernières années, 1960, 70 même, eh bien, les vaches buvaient beaucoup. Elles sont plus exigeantes en eau. Donc, vous retrouvez autour des Caires, entre les Caires et la partie, la partie rocheuse, hein. Il y a des zones où il y a des mares qui sont soit creusées dans la terre, soit creusées dans le sol rocheux, pour extraire les roches. Et en général, les agriculteurs de l'époque creusaient dans ces parties un peu rocheuse, mais pour avoir des roches pour faire leur maison. Le maçon leur disait, ben, quand tu auras tes roches, j'irai faire ta maison. Donc c'est devenu des mares pour abreuver les bovins. Et donc, quand je suis arrivé, je vais faire court, parce que c'est long l'histoire de l'agriculture. Et donc, quand je suis arrivé à la bergerie, je n'avais pas d'eau. Donc j'ai demandé le raccordement au réseau, en 76 surtout, quand c'était une année de sécheresse, et on m'a aidé, la chambre d'agriculture, pour avoir le premier raccordement au réseau par le Kerpoirot. Et puis après, en 80, quand j'ai commencé le maraîchage, donc je me suis vraiment posé les questions, sans eau il n'y a pas de maraîchage, hein, c'est exclu. Donc on a commencé à faire des forages. Les premiers forages qu'on a fait à 35 mètres s'avéraient très prometteurs. Et au début, tous les équipements de la bergerie se sont faits sur du diamètre 60. C'est-à-dire qu'on nous promettait beaucoup d'eau. 9 mètres cubeurs même. Un truc impressionnant. Enfin, rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Et puis, comme il n'y a jamais eu de prélèvement dans ce milieu, hein, au-delà de 30 mètres, eh bien, il y avait toute une réserve d'eau dans les sols, dans les failles, dans les trucs, que j'ai exploité au début. Et au bout de quelques temps, mais très peu, le forage s'est mis en manque d'eau, déjà. Et ça voulait dire qu'il fallait réduire la voilure, changer de pompe et tout. Et on est descendu à des pompes qui faisaient 2 mètres cubes 5 et qui étaient adaptées à peu près au débit. Et puis, alors, je vais faire vite, mais les équipements que j'ai faits peuvent éclairer sur l'approche qu'on peut avoir par rapport au problème de l'eau. Et donc progressivement, je me suis aperçu que la recherche de l'eau était une idée. Il y a plein de gens dans les périodes 80-90 qui avaient ça, mais on pouvait forer facilement. Il y avait une entreprise, même deux entreprises qui sont venues, et il suffisait de s'inscrire pour avoir un forage. Et progressivement, eh bien, l'eau s'est raréfiée, et dans les années, fin des années 90, on a imaginé, comme tout le monde pompait dessus, pour une pelouse, pour du chauffage même, on s'est aperçu qu'il fallait stocker de l'eau quand il y en avait beaucoup et qu'on ne pouvait plus arroser l'été. Et donc on a fait un bassin de rétention qui n'avait rien à voir avec une méga bassine, mais qui avait pour objet de stocker l'eau pour... Alors ça paraissait grand au début, mais c'était 2000 mètres cubes d'eau avec une membrane, une géomembrane qui permet de stocker l'eau, bon, qui n'évite pas l'évaporation, mais et on s'aperçoit au terme d'une année d'exploitation que ce stock d'eau diminue rapidement et que on a un manque d'eau au mois d'octobre. Hein, septembre. Et donc, si on peut philosopher un peu, je m'aperçois qu'il ne faut pas augmenter les quantités d'eau et bien gérer l'usage qu'on en fait et aller jusqu'à reconsidérer les conditions de culture, hein, les pratiques agricoles pour peut-être économiser l'eau. En simplifiant, éviter les pertes d'eau dans le sol, augmenter la rétention dans le sol, reconsidérer le taux d'humus, et puis la mécanisation, reconsidérer tout ça, quoi. Parce que la mécanisation maltraite un peu la terre, fait disparaître l'oxygène, etc. Je ne vais pas m'élancer là-dedans, mais par rapport au problème de l'eau, se concentrer que sur la quantité d'eau est une chose dont on connaît les limites maintenant.
Donc, alors, voilà. Gérard, tu vas continuer puisque tu es bien lancé. Tu as commencé à évoquer des solutions possibles, mais avant d'évoquer vraiment les solutions, moi je voudrais qu'on précise, parce que finalement toi tu as été un peu précurseur en mettant en place un certain nombre de choses, mais ce n'est pas le cas, et a fortiori pour les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a tendance à parler d'autonomie alimentaire. Tu me détrompes, Arthur, si je dis une bêtise. Mais de mémoire, on est à même pas 5% d'autonomie alimentaire sur l'île grâce à l'agriculture. Donc vous voyez qu'on est loin, on est loin du compte, et la tendance, elle serait plutôt à augmenter ce pourcentage-là. Mais du coup, ce problème de manque d'eau, il est encore plus crucial pour tous ceux qui veulent s'installer. Donc justement là, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus les solutions qui sont possibles, parce que tout le monde n'en est pas là, ou on n'est pas au stade d'avancement que tu as évoqué?
Non. D'abord, l'autonomie alimentaire n'a jamais existé sur l'île. Même pour le blé, on disait l'île-Dieu exportatrice de blé, elle suffisait à peine à couvrir ses besoins. Donc il y a des idées qu'on a comme ça dont il faut s'affranchir. Mais comment dire, si on reconsidère, si je m'installais demain, par exemple, et que j'étais confronté au problème de l'eau qu'il y a maintenant, et qu'on peut envisager, parce que entre le climat que j'ai connu en m'installant et ce que l'on connaît maintenant, la capacité de rétention des sols est bien moins importante. Hein, ça, c'est important à souligner. Donc, il faut...
Excuse-moi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle est moins importante? Qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue moins importante?
Parce qu'il y a des sécheresses hivernales que je ne connaissais pas. Hein, quand je me suis installé, au mois de décembre, il y avait de l'eau. Et les vieux me disaient... tout ce qui tombe après le mois de décembre, ça sert à rien. C'est-à-dire que les jours allongent, l'évaporation aussi, donc il fallait qu'on ait nos réserves d'eau. Et là, maintenant, avec les sécheresses hivernales, on peut espérer, ça peut changer hein, brutalement, c'est aussi l'anarchie climatique hein, qui nous concerne. Eh bien, il faut récupérer à l'extrême tout ce qui peut tomber et essayer de le capter. Bon. Alors, quand je me suis installé, il y avait ces conditions-là où il y avait quand même de l'eau à l'automne, beaucoup d'eau. Et combien de fois on était embêté parce qu'on ne pouvait pas cultiver ou rentrer même dans les terrains. Donc, en gros, ce que je préconiserais, c'est lutter d'abord contre l'excès d'eau. Donc, Arthur en parlera tout à l'heure, sûrement, par l'écoulement, refaire les fossés, essayer d'observer comment les résultats qu'on voit sur le sol, quoi, hein, ça nous éclaire sur les attitudes que les anciens avaient, qui n'avaient peu de moyens, mais qui avaient réussi quand même à cultiver à certains moments. Et donc, essayer d'améliorer, c'est-à-dire d'abord l'excès d'eau, hein, qui est la plus grave pour moi, que le manque d'eau. C'est un peu provocateur, mais quand on a réglé l'excès d'eau, on a déjà réglé une partie du manque d'eau. C'est-à-dire qu'en deux mots, le sol, si on le laisse s'asphyxier l'hiver, il perd de son aération, de ses capacités de rétention de l'eau. L'humus est désagrégé, il y a des fermentations, enfin bon. Et donc, il faut absolument lutter contre ça. Et après, pour avoir le minimum d'eau, il faut être prêt à avoir des retenues, si minimes soient-elles, et puis peut-être élargir par des plans d'ensemble, les capacités de rétention d'eau dans des fosses, dans des mares, voire dans des bassins.
Tu parlais même de récupération des eaux de pluie, effectivement.
Ah ben c'est ça dont il s'agit.
Tu parles des toitures, des bâtiments, pour ceux qui ont des bâtiments, évidemment.
C'est ça. Et oui, parce que il y a peu de bâtiments agricoles. Historiquement, il n'y avait pas de siège d'exploitation. Les parcelles étaient très divisées et un siège d'exploitation ne s'imposait pas. Donc, les gens raisonnaient par les eaux de ruissellement. Mais pour ça, il faut améliorer le système des canaux, des fossés. Hein, ça, c'est ça. Mais j'ai peut-être passé la main à
oui,
Arthur.
Oui, justement, là, on a un peu dressé, je dirais, un constat un peu général, mais j'aimerais qu'au vu de tout ce qu'on a déjà dit, que tu nous expliques, Arthur, ce que c'est exactement le projet, donc au fil de l'eau, on a déjà un petit peu deviné ce que c'était, mais de quels moyens on dispose et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà fait, parce que depuis quelques années, il s'est passé des choses.
Oui. Alors juste pour commencer, pour compléter un peu le propos de Gérard, on nous pose parfois la question de savoir s'il y a bien une nappe souterraine ou pas à l'île-Dieu. Donc en fait, en contexte insulaire, on est entouré d'eau de mer et donc d'eau salée. Et du coup, en fait, l'eau douce est constituée dans une forme de lentille d'eau douce qui est sous nos pieds, mais qui subit la pression de l'eau salée qui est plus dense. Et donc, on sait que ce que tu disais, quantitativement, on est assez limité. En fait, on sait que cette ressource est limité à cette lentille d'eau, quoi. Donc ça, ce sont les eaux souterraines. Et ensuite, on a les eaux de surface, comme tu l'as évoqué, avec donc les mares et les fossés principalement. Les eaux de surface sont généralement constituées par les cours d'eau, mais vu qu'à l'île-Dieu, on n'a pas de cours d'eau principaux, on se contente des fossés et des mares, quoi. Donc le projet au fil de l'eau, c'était l'idée de se dire, puisqu'on veut développer l'agriculture, comment faire pour repartir de cet état, soit d'exploitation qui ont été créés relativement récemment, soit de friches, puisque, comme on le voit autour de nous, c'est un peu différent, mais dans beaucoup de zones anciennement agricoles, c'est développé une friche qui est parfois assez dense. Et donc, pour remettre ces terrains en culture, ça va supposer des questions sur l'écoulement qui est importante. En fait, aujourd'hui, on l'observe notamment sur les nouveaux sites qui ont été défrichés depuis 4-5 ans, où dès lors qu'on supprime une végétation qui avait elle-même généré des équilibres dans l'écoulement de l'eau, on va avoir des écoulements qui vont changer. Et du coup, ça va avoir un impact sur les pratiques agricoles directement pour le maraîcher principalement, mais aussi l'éleveur. Donc l'idée, c'est de retrouver une cohérence ou en tout cas jouer sur l'effet du fossé et de la mare pour améliorer les conditions d'exploitation du terrain. Donc ça veut dire commencer par diagnostiquer ces réseaux. On les retrouve parfois quand on se balade un petit peu sur la côte sauvage ou dans les zones agricoles. On revoit un peu ces fossés qui jalonnent le territoire et puis qui parfois sont très très enfrichés. Donc là, l'idée, c'est de mieux comprendre comment étaient conçus ces réseaux, où ils se trouvent, dans quel état ils sont, est-ce qu'il y a combien d'eau il y a dedans, comment l'eau circule, etc. Et puis les remettre en état si c'est nécessaire. Sachant qu'on peut pas non plus, enfin on a des moyens qui sont limités, on peut pas remettre en état l'ensemble des fossés de l'Île-Dieu en quelques années, sachant que ça fait pour certains plus de 100 ans qu'ils ont été abandonnés, quoi. Donc l'idée, c'est de considérer en fait l'agriculture actuelle, les perspectives de développement, où elle se situe, dans quelle proportion, et en fonction de ça, comment intervenir et avec quels moyens pour restaurer les réseaux, réouvrir les mares, éventuellement créer de nouvelles mares ou créer de nouveaux réseaux. Voilà. Donc c'est un petit peu les problématiques qui se posent aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, en fait, vous travaillez que ce soit donc toi comme chargé de mission, mais toute l'équipe qui est autour, hein, les membres du comité de développement de l'agriculture, vous travaillez donc avec les exploitants agricoles, les porteurs de projets, pour identifier leurs problématiques, c'est ça ?
Oui, alors donc dans le cadre du projet Au fil de l'eau, en fait, on a trois axes principaux qui sont des études, déjà pour mieux comprendre la participation citoyenne qu'on a réussi un petit peu à faire au début. On a pu, par exemple, organiser un inventaire participatif des mares et mobiliser un certain nombre de bénévoles. Il y avait plus d'une vingtaine de bénévoles qui ont participé. Et ensuite, la partie travaux, donc intervenir là où on a estimé qu'il y avait un besoin et faire des travaux de défrichage, de curage de fossés ou de mares, de réouverture du milieu, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on intervient dans ce projet. Donc c'est en fait le projet, la méthode, elle est un petit peu comme son nom, c'est-à-dire au fil de l'eau. C'est-à-dire que à mesure qu'on avance dans les études qu'on fait, on va pouvoir, vu que c'est ciblé sur des secteurs où on développe l'agriculture, on va pouvoir mieux comprendre localement comment ça se passe et de ce fait intervenir localement. En fait, on n'a pas un plan global aujourd'hui de restauration de l'ensemble des réseaux hydrographiques de l'île, quoi. Mmh. Ce serait très compliqué, ça demanderait énormément de mobilisation de tous les acteurs et de travail en amont. Et ensuite, des moyens énormes pour remettre tout en état de manière homogène, quoi. Donc on intervient de manière ciblée, voilà, c'est ça. Et juste pour aussi répondre à la question que tu as posée tout à l'heure par rapport à l'installation, en fait, la facilité aujourd'hui pour un agriculteur qui s'installe, c'est de se raccorder au réseau d'eau potable, quoi. Donc on a une bonne partie de l'eau d'irrigation et d'abreuvement pour les animaux qui est directement issue de la station d'abreuvement sur le continent. Donc c'est une eau, en fait, une bonne partie de l'eau agricole aujourd'hui est une eau potable du continent. Du coup, ça pose la question à la fois d'ordre écologique pour le transfert de l'eau, etc., la pression sur la ressource, et en même temps aussi économique, puisque cette eau coûte relativement cher pour un agriculteur, puisqu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur entre une consommation d'un particulier et la consommation d'un agriculteur. Donc à titre d'exemple, par exemple, un maraîcher sur l'île Dieu, avec le climat qui devient de plus en plus... les sécheresses qui deviennent de plus en plus intenses et les canicules aussi, en été, un maraîcher consomme à peu près 4 à 6 mètres cubes d'eau par hectare irrigué, avec des variations, puisque dans une ferme, tout n'est pas irrigué de la même façon. Mais ça veut dire à peu près, par exemple, 20 à 30 mètres cubes par jour en période d'été pour une ferme comme la ferme de la Bergerie. Donc c'est des consommations quand même assez importantes. Si on met toutes les fermes les unes à côté des autres, on arrive vite à quelques centaines de mètres cubes par jour, quoi. Sachant que, évidemment, on l'a rappelé, l'été, c'est la période où on n'a pas d'eau. Donc il faut puiser dans les réserves qu'on aura faites en amont. Et les bassins qu'on peut créer ou qui ont été créés suffisent pas du tout à subvenir à ce besoin. Donc c'est pour ça que la facilité aujourd'hui, c'est le raccordement, quoi. Et le raccordement pose des contraintes, puisque l'eau n'est pas présente partout, les réseaux ne sont pas présents partout. Là, quand je parle des réseaux, je parle du réseau d'eau potable. Et donc ça apporte aussi des contraintes techniques pour une installation rapide à court terme, puisqu'on peut s'installer que là où les réseaux aboutissent, pour le siège d'exploitation en tout cas. Et ça, c'est assez limitant aussi.
Donc, on comprend que le sujet, il est vaste, hein, puisque tu viens de le dire, hein, les exploitants agricoles, ils ont en été, il y a des moments dans l'année où ils sont en rupture d'eau, ils sont obligés d'utiliser l'eau du réseau, ça leur coûte cher, enfin, on a bien compris tout ça. Donc, le CDA intervient pour aider, pour les aider, et on comprend aussi, du coup, que c'est un gros enjeu, mais qu'il y a un gros, gros travail de longue haleine. Et du coup, comment c'est organisé, comment c'est financé tout ça, et comment vous décidez effectivement d'avancer, ou plutôt, j'allais dire, quelles sont les priorités à court terme?
Ouais, alors, avant de parler de financement, je vais déjà détailler un petit peu les actions qui ont pu être faites depuis 3-4 ans pour ce projet. Donc, au niveau des études, on a en 2020 fait appel à des étudiants hydrogéologues d'une école d'ingénieurs à Beauvais qui sont venus 15 jours sur le terrain en septembre, donc à la période justement où le niveau de l'eau est le plus bas. Et ils ont prospecté différentes zones agricoles pour voir la ressource du sous-sol, juste pour confirmer la présence d'eau ou pas. Sachant qu'on pourra de toute manière plus trop la puiser puisqu'on sait que la quantité est limitée. Et ensuite, ils ont aussi prospecté les puits. Sur l'île, on ne sait pas exactement combien de puits il y a aujourd'hui, mais eux, ils ont recensé 140 puits, donc 35 communaux, c'est-à-dire des puits collectifs, et le reste en puits privés. Donc cette étude a été intéressante pour aussi comprendre un peu, enfin faire des analyses de pollution dans les eaux des puits et mieux comprendre la qualité et la quantité de l'eau disponible sur l'île.
Alors, juste avant que tu ailles plus loin, est-ce que si aujourd'hui il y a des gens qui ont des puits chez eux, qui n'ont pas été contactés ou qui n'étaient pas présents au moment de l'étude, s'ils veulent déclarer leur puits, est-ce que ça a une incidence pour eux? Parce que ça peut être inquiétant de dire je déclare mon puits, je suis plus maître chez moi, ou quelle est l'incidence pour ceux qui n'auraient éventuellement pas déclaré parce qu'ils ne le savaient pas ou parce qu'ils avaient ce petit doute, hein. Est-ce qu'il y a un incident d'ailleurs?
Il n'y a pas vraiment d'incidence, mais disons que c'est pour informer quoi. C'est pour informer la collectivité sur l'existence ou non d'un puits. À ce jour, j'ai pas connaissance d'incidence par rapport à la déclaration d'un puits. Mais on peut imaginer que voilà. Oui, fiscal, voilà. Voilà. On peut imaginer des mesures quoi.
Bon, en tous les cas, ça permet, si j'ai bien compris, ça permet d'avoir une vision, d'estimer un petit peu les réserves d'eau souterraines au final.
Bah, disons que oui, et puis les puits au départ c'était fait là où les habitations étaient faites et là où il y avait de l'eau en fait. Donc déjà, même si l'habitation s'est diffusée, on retrouve en fait les tracés des anciens habitats à travers les puits.
Bon, je te laisse reprendre le fil de...
Donc ça c'était une première étude. Une deuxième étude avec un stage de Master 2 d'une étudiante en agronomie il y a 2 ans, en 2021, qui s'était elle intéressée à l'échelle de la parcelle agricole. Donc elle était allée faire des prospections sur une parcelle de la ferme du Moulin, le ARL du Moulin, pour voir un petit peu la nature des sols, la qualité de rétention de la terre ou pas, et la localisation justement d'engorgement ou de sécheresse. Donc bon, c'était un stage de master, donc ça nous a quand même permis à l'échelle d'une parcelle de savoir comment ça fonctionnait. Mais on sait que chaque parcelle a son propre fonctionnement, donc il faudrait reproduire ce genre d'études dans différents endroits un peu stratégiques pour qu'on ait une bonne connaissance de la circulation de l'eau à l'échelle de la parcelle.
Ça a mis combien de temps à peu près?
Ce stage, c'est un stage de 6 mois.
D'accord.
En fait, cette étude, elle peut être faite même par l'agriculteur lui-même en posant des piézomètres, donc c'est-à-dire des tunnels de 5, 6 mètres, voire moins, en fait, tant qu'il peut creuser. Mais des fois, il y a tellement peu de sol qu'on ne peut pas creuser au-delà de 1 ou 2 mètres. Mais il peut mettre lui-même ses sondages, en fait, et estimer tout au long de l'année comment évolue son niveau d'eau. Parce que sur 6 mois, évidemment, on va être limité parce qu'on n'a que le point de
Qu'une
vue sur
saison.
la moitié de l'année, qu'une saison. Ouais. Ensuite, on a fait une étude avec la Chambre d'agriculture. Donc là, c'était l'année dernière, en 2022, sur 8 fermes volontaires qui ont participé, qui donc. L'idée de cette étude, c'était de faire un diagnostic sur chaque ferme pour voir comment l'eau était gérée sur la ferme et quelles étaient les perspectives de gestion plus autonome. Donc, par exemple, le potentiel de récupération de l'eau de pluie issue des bâtiments, par exemple, la création de réserves d'eau, ou bien, là c'était une hypothèse qui était émise par la Chambre, mais qu'on sait très compliqué à mettre en place, voire aussi un peu critique à mettre en place sur les lieux, qui est la récupération des eaux de la station d'épuration. Même si on sait que ça génère, enfin c'est un volume d'eau qui est immense par rapport à la capacité qu'on a dans le sous-sol, puisqu'on estime à 440 000 m3, il me semble, par an d'eau rejetée par la station. Donc quand on a cité les besoins en mètres cubes des agriculteurs tout à l'heure et qu'on met en parallèle le volume d'eau rejetée par la station,
on a largement assez.
On a largement assez, voilà. Y compris même pour les consommations particulières, ouais. de particuliers. Donc ça, c'était ce qu'on a fait l'an dernier. Et toutes ces études nous ont permis de faire des travaux, en fait. Donc on a commencé il y a 2 ans à restaurer quelques fossés, à créer quelques fossés aussi, et à réouvrir quelques mares qui étaient complètement enfrichées, sur 3 sites agricoles, donc 2 sites maraîchers et 1 site de vignes. On continue ces travaux, on a continué l'année dernière, et on les continue encore cette année. Donc on fait ces travaux généralement au mois de septembre, puisque c'est là que le niveau d'eau est le plus bas, donc que les entreprises peuvent intervenir. Donc là, cette année, on continue à nouveau sur 3 sites agricoles, dont un qui vient de s'installer en maraîchage, les vignes, et c'est tout, voilà, pour l'instant. On va aussi faire une dernière étude au dernier trimestre 2023, avec l'Université de Nantes, et notamment avec Elsa Cariou, dont certains parmi vous connaissent peut-être les actions sur l'île-Dieu. Donc, elle travaille dans le cadre du projet Odyssée Île maintenant, et finalement, on a trouvé des ponts à faire entre son projet et le projet du CDA. Et donc, elle va, elle, s'intéresser à vraiment analyser les réseaux hydrographiques sur la zone agricole du Sud-Est. Là, on a plusieurs projets en cours d'installation. Et en même temps, elle va faire aussi des analyses de pollution dans les sols agricoles pour savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Donc nous, ça peut nous intéresser pour les maraîchers actuels et pour les futurs. Et ça peut aussi intéresser l'université pour d'un point de vue scientifique, quoi.
Et avec tout ce qui a déjà été mis en œuvre, qui a été résumé finalement très rapidement, mais est-ce qu'on a déjà pu observer, est-ce que les exploitants concernés ont pu observer des premiers résultats dans un sens ou dans l'autre, favorables ou non favorables?
Oui, pour alors par exemple, on a aussi, j'ai pas cité, financé l'installation de systèmes de récupération des eaux pluviales, des toits, des bâtiments, de la ferme, de la bergerie et de la ferme d'Émilie pour alimenter leurs réserves d'eau. On a aussi financé une partie des investissements pour créer la réserve d'eau en cours de construction à la ferme d'Émilie. Et donc ça, ce sont déjà des conséquences directes du projet. Et pour le projet aussi, je pense par exemple au pied sur terre, donc une ferme en maraîchage qui s'installe dans la zone des Grisons, donc vers les Vieilles.
Ben Elliott, ceux qui les connaîtraient. Ouais.
Donc là, en fait, comme on est parti d'un stade de friche arbustive pour une partie, du coup, on avait des systèmes racinaires qui pouvaient pomper une partie de l'eau et du coup, défricher tous ces terrains a entraîné des écoulements qui étaient ensuite différents. Donc là, les maraîchers ont observé ça la première année. On est intervenu la deuxième année sur leur fossé et la mare et on a créé une mare. Et donc, ça a aussi généré des effets sur la circulation de l'eau. Donc en fait, on intervient un petit peu au fur et à mesure en fonction des conséquences qu'on observe, quoi. Mmh. Et on sait qu'il y aura sur cette ferme, de toute manière, avant de trouver un équilibre, il y aura des travaux à faire sur plusieurs années, quoi.
Et donc tous ces chantiers qui sont longs et lourds et coûteux, ben, comment ils sont financés?
Alors,
aujourd'hui,
comment ils sont financés?
C'est un problème crucial. Ouais.
Donc principalement par les subventions. Donc nous, CDA, on est financé principalement par la mairie, en fait, hein, qui est membre du CDA. Donc on est une association depuis 3 ans seulement, depuis 2021, grâce aussi à l'action de la mairie qui nous subventionne et qui permet par exemple le financement de mon poste. Donc c'est un premier soutien et ensuite nous on va chercher d'autres subventions de la région, de fondations privées, de l'État aussi. On a eu des fonds dans le cadre du plan de relance assez importants. Donc on épuise petit à petit chaque année en fonction des travaux qu'on fait et des études qu'on mène, les fonds qu'on touche. Donc en fait on est dans un besoin permanent de mobiliser des fonds, quoi. Donc l'année dernière, on a mobilisé des fonds avec les fondations du patrimoine au titre du patrimoine naturel et de la fondation Engie aussi. Voilà. Donc on diversifie un peu nos sources de financement. Mais on a avec la fondation du patrimoine, je profite de la réunion d'aujourd'hui pour parler de la collecte qu'on a organisée avec la fondation du patrimoine. Donc en fait, la fondation du patrimoine fait souvent ce genre d'initiative lorsqu'elle soutient un projet local, c'est de faire une collecte auprès des habitants pour appuyer un peu le financement qu'elle apporte. Donc chaque habitant peut contribuer à sa hauteur et ça permet au projet de... Bah, ça permet un petit peu d'aider la mise en place du projet, quoi. Donc j'ai amené des brochures si certains d'entre vous sont intéressés, on pourra les voir à la fin à côté.
Bah justement, j'allais te poser la question, enfin j'allais même vous poser la question, comment chacun à son niveau, hein, on n'est pas obligé d'être agriculteur pour se sentir concerné par le problème, la preuve c'est que vous êtes tous là aujourd'hui, comment on peut aider sur ce projet, quelles sont les possibilités pour les habitants de l'île-Dieu d'aider, d'apporter un soutien, quel qu'il soit?
Alors, il y a une notion aussi que j'ai pas abordée, c'est puisqu'on parle de réseaux hydrographiques, de fossés, de mares, on parle de réseaux qui sont qui dépassent l'échelle de la parcelle. Et du coup, on a parfois des fossés évidemment qui vont sur des parcelles privées. Tout n'est pas collectif, communal. Et donc, on avait fait cette initiative au début, lors de nos travaux, de demander aux propriétaires de terrains qui étaient concernés par les travaux qu'on allait faire, s'ils étaient prêts à accepter une intervention sur leur terrain. Donc, vu qu'on travaille de manière ciblée pour l'instant, on n'a pas eu de problème pour l'instant de propriété. Mais si on voulait un peu développer ces travaux et atteindre y compris des propriétés privées, il faudrait qu'on puisse avoir l'accord des propriétaires, bien sûr. Donc, ça peut être une forme de soutien au projet, c'est-à-dire de dire oui, je suis prêt à ce que ma parcelle en friche soit entretenue, en tout cas au niveau des fossés ou des mares.
Oui, et effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, un sujet qui est, c'est pas obligatoire, mais il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, l'État oblige les propriétaires à entretenir les fossés autour de chez eux. Et pas uniquement à couper les branches d'arbres qui débordent sur la chaussée, quoi. Donc c'est quelque chose qui vaut mieux aujourd'hui anticiper, si j'ai bien compris, pour demain.
En fait, on est globalement censé entretenir ces fossés, mais sachant qu'on entretient plutôt les fossés qui se situent sur notre habitation, on ne va pas forcément aller entretenir les fossés des propriétés familiales qui sont en pleine friche, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'on a quand même une petite marge avant que l'État ou d'autres structures n'encouragent ou n'incitent à l'entretien de ces fossés. Malgré tout, les agriculteurs participent à ça. Donc par exemple, les éleveurs de l'île-Dieu contribuent par leur travail à entretenir ces fossés sur des parcelles parfois privées. Donc c'est aussi par l'agriculture, tu citais l'historique de l'agriculture tout à l'heure, Gérard, quand la quasi-totalité de l'île était cultivée ou exploitée ou pâturée, du coup les gens entretenaient ces fossés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on ne peut pas revenir en arrière et ce n'est pas forcément souhaitable non plus. Donc voilà, l'idée c'est qu'aussi par des agriculteurs, ces choses-là peuvent être faites.
Bon, est-ce que vous avez d'autres choses qu'on aurait oublié de préciser jusqu'à présent? Moi j'ai à peu près fait le tour, et on va donner la parole au public. Je pense que vous avez des questions à poser sans doute, donc... Non. Le sujet est trop vaste, nous dit Gérard. Et c'est vrai qu'on pourrait en faire des journées, hein. Effectivement, c'est passionnant, le sujet absolument passionnant. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Moi j'ai juste une question concernant les budgets, ou quel est le niveau en dizaines ou en centaines de millions d'euros par an, par opération, voilà, pour avoir une idée au niveau des besoins financiers sur les opérations.
Georges Biro, président du CDA. La question du financement est extrêmement importante. Tout à l'heure, Gérard a parlé des méga-bassines qui n'ont rien à voir avec ce qu'on essaye de faire sur l'île-Dieu. On sait que les méga-bassines, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister et qui, malheureusement, sont financées à coups de millions par l'État. Et nous, quand on réclame quelques dizaines de milliers d'euros, eh ben, il faut faire des dossiers, il faut patienter, et on ne les a pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, Arthur a parlé des financements, des régions, de l'État, etc. Mais tout ça, ça n'existe quasiment plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plan de relance s'est terminé. Nous avons un PAT, un plan alimentaire territorial, et on nous fait bien comprendre que maintenant, les financements, il faut se débrouiller. C'est aux collectivités territoriales de financer les PAT. On n'aura plus de subventions de la part des régions, des départements ou de l'État. Et voilà, donc en fait, il y a une orientation politique qui est prise en France, qui consiste à industrialiser l'agriculture de plus en plus, concernant l'eau, c'est la privatisation de l'eau pour quelques dizaines d'agriculteurs, pour produire du maïs, pour l'exporter, pour faire pousser de la bête, faire de la viande qui est ramenée en France et qu'on consomme. Voilà. Alors, on ne voit pas du tout l'intérêt, alors qu'ici, sur l'île-Dieu, on essaye Alors c'est vrai, on n'arrivera pas à l'autonomie alimentaire, je suis bien d'accord Gérard, mais passer quand même de 5% à 10%, ça serait pas mal. Le fait de faire la ferme en régie, Arthur n'en a pas parlé, mais le fait de faire la ferme en régie, ne serait-ce que ça, on va augmenter de 1 ou 2% le pourcentage de légumes, puisque on commence par les légumes, pour la collectivité. Voilà, donc on est dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Certes, la collectivité territoriale pourrait investir davantage. Voilà, nous avons un chargé de mission. Quand on regarde l'Office du tourisme, ils sont, je ne sais pas combien, 7-8. L'été, ils sont une douzaine. Là, il y a un rapport qu'on voit tout de suite, hein, où est mis l'argent. Et on pourrait faire plein de comparaisons comme ça. Donc, est-ce que l'agriculture, dans les îles, parce que je suis en même temps membre du réseau agricole des îles Atlantiques, où on retrouve ces mêmes problèmes partout, est-ce que vraiment on veut développer, maintenir l'agriculture dans les îles Atlantiques? Ou est-ce que, bon, ben voilà, on laisse quelques agriculteurs parce que ben, une île sans marché avec des produits locaux, ben, ça le fait plus, quoi. Hein? Donc on va soutenir un petit peu les agriculteurs pour maintenir ça. Mais on n'a pas de vision sur le long terme par rapport au changement climatique, parce que moi, pour moi, la vision sur le long terme, c'est quelles sont les conditions d'habitabilité de la planète aujourd'hui. C'est ça qui doit nous guider essentiellement. Bon, alors, je sais bien, je dérange, mais je pense qu'il faut poser aussi un certain nombre de questions de fond en temps.
Alors, bon, on est bien conscient qu'il y a un problème, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait se focaliser principalement sur l'eau. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres des coûts, des dépenses qui ont été faites pour soutenir le projet autour de l'eau?
On a chiffré l'année dernière, pour quelques années, à un peu plus de 300 000 euros pour l'ensemble des investissements, mais ça pourrait être beaucoup plus, comme un peu moins. Beaucoup plus si on voulait, évidemment, décupler ce qui est fait.
Et aller plus vite.
Voilà. Ce qui a déjà été dépensé en investissement là, sur le projet, c'est autour de 60-70 000 euros depuis le début.
D'accord, donc c'est peu. C'est peu à l'échelle d'une collectivité, très peu.
C'est peu. Ouais.
Effectivement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien il faudrait, une vague estimation.
Pour boucler ce budget de 300 000 euros que je viens d'évoquer, il faudrait encore à peu près 100 000 euros, mobiliser encore 100 000 euros. On a déjà mobilisé une centaine de milliers d'euros, il faudrait combler ce budget.
D'accord. Alors, d'autres questions?
Je voulais poser la question sur la gestion de l'eau des marais. Parce qu'on a en fait une accumulation d'eau relativement importante dans les marais, comme le marais salé, la Guerche, le marais Motou, et qu'on relargue en mer régulièrement puisque ça déborde. Et est-il possible d'exploiter la ressource hydrique de l'eau qui s'est accumulée dans les marais en période hivernale?
Oui, le problème des zones des marais de l'Île-Dieu sont des zones humides. Et là, il ne faut pas le résumer à une capacité d'eau, mais plutôt à la gestion de la biodiversité qui est utile pour l'ensemble de l'île. Et donc, l'exploitation des marais, ils ont déjà été asséchés parce qu'à l'époque des transgressions marines, c'était complètement inondé. Donc ça a été bien réglé. Et disons que la quantité d'eau disponible dans les marais n'est disponible que l'hiver. Et donc à ce moment-là, ce problème se poserait pour le stockage et l'acheminement après. Hein. Donc c'est un problème complexe que je résumerai peut-être à protégeons la biodiversité. D'abord, hein, et puis mais c'est une question intéressante qui pourrait passer avant le problème de la station d'épuration, hein, dans l'ordre d'avancement.
D'autres questions?
Merci, juste deux questions liées. On a parlé tout à l'heure de la ferme en régie, je voudrais comprendre pourquoi on a créé une ferme en régie alors qu'il existe sur l'île des maraîchers qui auraient peut-être pu fournir les collectivités de l'île. Et la deuxième question là, qui m'interpelle, c'est, on en a déjà évoqué, c'est pourquoi ne peut-on pas utiliser l'eau qui sort de l'usine de retraitement, alors que cette ferme régime est installée à quelques mètres de cette usine?
Alors, pour répondre à la première question sur le pourquoi de la ferme en régie, déjà c'est un système qui se développe de plus en plus en France depuis une 10-15 d'années. Et pour l'île-Dieu, ça semblait adapté, puisqu'il y a eu des tentatives de faire que les maraîchers locaux approvisionnent la cantine, les cantines, mais ça se fait un petit peu, quelques quantités par-ci par-là, mais c'est pas important. Il y a des problèmes logistiques aussi qui sont importants pour le producteur, puisque le cuisinier a des besoins qui sont assez variables en quantité et en produit, que le maraîcher a du mal à satisfaire, puisque tous les jours il faut qu'il apporte sa quantité. Donc en fait, le problème de l'approvisionnement des cantines, mais c'est général, hein, c'est pas qu'à l'Île-Dieu, c'est en France, est compliqué de base par les maraîchers, enfin par les producteurs locaux. Donc les quelques quantités qui étaient fournies par la bergerie ou autre n'étaient pas suffisantes. Donc, vu qu'on n'apportait pas une concurrence en créant une ferme en régie, l'idée c'était de, si on voulait approvisionner les cantines par des productions locales, fraîches, de qualité, ça pouvait ne passer qu'en créant une ferme qui fasse ça, et qui se dédie à ça. Voilà, c'était ça l'idée du projet au départ.
Bonjour à tous, Michel Bourgerie, je suis un des adjoints au maire, je suis en charge des finances et de la transition énergétique. Alors juste pour répondre sur la question de l'utilisation des eaux de la STEP, alors premier point, c'est que actuellement les eaux de la STEP se déversent en mer, elles se déversent pas du tout sur la ferme municipale, hein, donc qu'on soit bien clair. Le deuxième point, c'est que pour réutiliser des eaux qui sortent d'une usine de traitement, il faut les nettoyer, enfin il faut les purifier, les traiter. Et ce type de traitement, c'est pas du tout, il y a éventuellement des traitements chimiques qui peuvent être mis en place, qui sont difficiles à doser, et c'est essentiellement des étapes de filtration, c'est-à-dire que vous faites passer, vous créez des bassins de rétention, l'eau s'écoule à travers différentes épaisseurs de sable qui est plus ou moins dimensionné. C'est ce qui se passe à Noirmoutier par exemple, mais pour ça il faut de la surface. Et quand on dit qu'il faut de la surface, il faut des hectares et des hectares et des hectares. Alors c'est tout à fait possible à Noirmoutier, c'est ce qu'ils font. Ici on a un petit peu plus de mal. Donc c'est un vrai sujet, hein. On est bien conscient, parce qu'on se dit qu'effectivement, compte tenu des cubages qui sont, effectivement, on traite la consommation de l'eau sur l'île, et le rejet de l'eau, c'est plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par an, donc par rapport aux besoins des quelques hectares, normalement ça devrait couvrir, et en fait ça couvre pas du tout, parce que si vous voulez, ce qu'on retrouve dans le traitement des eaux, faut pas oublier ça, c'est que tout ce que nous rejetons dans nos eaux, dans nos eaux usées, vous avez des médicaments, vous avez des polluants chimiques, vous avez plein de trucs, donc on peut pas remettre cette pollution potentielle, en tout cas dans un système, directement dans un système agricole. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des solutions, mais dans l'immédiat, et compte tenu de notre configuration territoriale où on est limité en espace, pour l'instant on ne sait pas faire mieux que ça, si vous voulez. Et c'est à tel point, pour vous dire, que pendant les épisodes Covid, on n'a même pas eu l'autorisation d'utiliser l'eau qui sortait de la STEP pour arroser simplement les plates-bandes municipales, si vous voulez, ou nettoyer la rue sur le port, parce que il y avait suspicion de Covid, de trucs comme ça. Enfin, donc, alors, à tort ou à raison, je sais pas, mais c'est l'univers réglementaire dans lequel on est. Donc, pour l'instant, on sait pas faire beaucoup mieux. Enfin, c'est juste la précision que je voulais apporter.
Donc la question,
reformuler la question. Monsieur proposait de dire, on pourrait commencer par un petit projet. Écoutez, vous venez le designer et proposer la solution. Il y a aucun problème. On est preneur de toutes les bonnes idées. Si vous avez un bureau d'études qui peut nous faire ça, on est preneur de l'initiative. C'est bien évident. Voilà, merci.
J'ai pas de bureau d'études. Je suis juste potentiellement régulièrement sur l'île-Dieu, je n'ai pas de
gouttière sur ma maison. Je peux peut-être faire un méga goutte d'eau dans la gueule du colibri de Pierre Rabhi en collectant l'eau de pluie, puisque visiblement c'est la pluie qui tombe sur l'île qui apportera une mini goutte de solution. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir les projets des uns et des autres, pour acter auprès de la mairie, et si on collectait l'eau de pluie de nos maisons? Michel, tu reprends?
Je suis pas sûr d'avoir la réponse de Michel.
Je vais enlever ma veste, hein, j'étais pas prévu, j'avais pas prévu de parler. on est actuellement sous un régime de PLU qui n'est pas tout à fait optimal, puisque le PLU stipule que vous n'êtes normalement pas autorisé à poser une gouttière qui est visible de la rue. Alors c'est idiot, on est d'accord, mais c'est le résultat de l'histoire. Et modifier un PLU est un exercice qui est assez compliqué. Dans la vraie vie, tout ce qui n'est pas visible de la rue, vous faites ce que vous voulez. Et effectivement, je ne peux que vous engager, je l'ai fait personnellement aussi, à poser une gouttière et puis une grosse citerne d'eau sous la gouttière. Et ça marche très très bien, ça assure les tomates et il n'y a aucun problème. Plus sérieusement, c'est typiquement le genre de mesure qui est interdite mais qui est tolérée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas s'amuser à missionner la police municipale pour aller vérifier ou ennuyer quelqu'un qui aura eu la mauvaise idée, entre guillemets, de poser une gouttière sur son toit, alors qu'effectivement, c'est frappé au coin du bon sens, on est bien d'accord. Donc, c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais. On est en cours de révision du PLU, ce qui est au moins aussi compliqué que de recueillir les subventions de l'État machin pour l'agriculture. Ça avance dans le bon sens. Je veux dire, les élus, les services de l'État sont bien conscients du problème. Donc je ne peux que vous engager effectivement à poser une citerne.
Alors Georges, tu voulais nous apporter une précision?
Oui, enfin, c'est une précision. On peut nous dire que au lieu de penser les eaux de la station d'épuration, il faut penser les eaux de pluie, c'est ce qu'on a dit. Quand il tombe de l'eau de pluie sur le port, sur Saint-Sauveur ou sur un grand village, si toutes les eaux de pluie étaient rassemblées et qu'il y avait un bassin de rétention pour pouvoir les stocker, faire en sorte que les saletés se déposent, on pourrait récupérer cette eau-là et ensuite l'amener chez les agriculteurs. Bon. La mairie a fait deux bassins de rétention pour permettre à la station d'épuration de pouvoir traiter toutes les eaux usées. Hein. Il y en a une sur le port puis une au cours du moulin. Le coût, Michel, je ne sais pas si tu te souviens de ça, plusieurs centaines de milliers d'euros certainement, et on voit bien que si nous on voulait faire ça en tant que CDA et ensuite faire des canalisations pour acheminer l'eau vers les agriculteurs, ça va être un budget de millions tout de suite quoi, hein. Et même si on arrivait à faire ça village par village, voilà, mais c'est ça l'ampleur du problème, et si on les a pas, on est réduit à faire des choses qui sont assez petites quoi.
Oui, on va avoir des mares, des fossés, essayer de trouver où il y a de l'eau partout, des puits, mais comment on va acheminer toute cette eau alors après ça sur les parcelles?
C'est un peu tout l'enjeu justement des études qui sont faites et de diagnostiquer les réseaux. En fait, les réseaux, les mares servent pas pour irriguer, il faut bien se dire ça aussi. Les mares ont plusieurs fonctions, à la fois de rechargement de la nappe. Donc c'est-à-dire que par un lieu où l'eau est maintenue plus longtemps, c'est un lieu aussi où l'eau va recharger la nappe plus longtemps. Ce sont aussi des espaces de rétention, enfin de drainage des parcelles voisines, et des lieux de biodiversité importants, y compris pour les cultures. Et c'est aussi des lieux paysagers qui sont intéressants. Mais ce n'est pas des capacités de stockage pour les maraîchers, par exemple, pour irriguer. Donc juste pour avoir ça en tête. Donc l'eau qui va circuler de fossé en fossé, de mare en mare, Bon, déjà, l'eau circule de base, hein, qu'il y ait un fossé ou qu'il n'y ait pas de fossé. C'est juste que là, on va pouvoir le capter un peu plus facilement. Mais finalement, par la restauration des réseaux hydrographiques, c'est plus que de capter de l'eau pour irriguer, c'est permettre une meilleure condition d'exploitation pour les parcelles voisines, finalement. Ouais, régler le surplus d'eau dont on parlait au début, l'excédent d'eau l'hiver quand il pleut, et cet excédent qui, par l'acidification du sol et le tassement du sol, fait que le sol sèche très vite et du coup est impropre à la culture après.
Oui, bonjour. Il y a combien d'agriculteurs à l'heure actuelle à l'Île-Dieu et quelle surface occupent-ils? Et y a-t-il des projets aussi de nouvelles installations d'agriculteurs sur l'île?
Alors aujourd'hui, on compte 13 exploitations agricoles, toutes confondues, donc en élevage, en maraîchage et en culture végétale diverse. Donc on a 5 maraîchers, si on considère la ferme en régie, 4 éleveurs, donc ovins, bovins, volailles et rennes d'abeilles, donc c'est un peu particulier, et puis des cultures végétales, de fleurs, de safran, de plantes aromatiques et médicinales. Donc l'ensemble de la surface exploitée par ces agriculteurs est à peu près de 60 hectares, à peu près. Un peu plus, même 130 hectares si on considère les pâtures qui sont sur la côte sauvage. Par contre, en culture, là on est plutôt de l'ordre de 30-35 hectares, quoi. Pour l'instant, pas de projet important d'installation. Là, depuis 2-3 ans, on soutient deux fermes principalement. Qui sont créés ex nihilo, c'est-à-dire qui sont partis de l'état de la friche. Donc ça suppose un accompagnement assez long et assez coûteux. Donc là, c'est la ferme des pieds sur terre dont on a parlé en maraîchage, et la ferme du jardin des perdrettes en plantes aromatiques et médicinales. Donc il y a des petits projets qui émergent parfois. Par exemple, un apiculteur qui s'est présenté dernièrement. On a eu aussi un projet de pépinière, de petite pépinière. On a un projet de petits fruits, donc la brasserie, alors c'est peut-être confidentiel, non, c'est pas confidentiel. La brasserie des Fous Brassants va cultiver ses petits fruits, et donc a demandé aussi le soutien du CDA. Donc voilà, c'est des petits projets comme ça, mais qui sont pas des projets qui vont créer un emploi forcément, ou qui vont, donc, où la personne va en vivre, quoi. C'est des projets parfois de diversification ou annexes, quoi. Donc on n'a pas de projet de création d'une ferme complète qui va créer un ou deux ou plusieurs emplois aujourd'hui, en dehors des deux qu'on accompagne depuis 3 ans.
Alors, encore une question.
Bonjour. Je voulais vous demander, par rapport à la rétention et la conservation de l'eau, quel rôle puisse jouer la permaculture?
Alors là, oui, c'est peut-être Gérard qui saurait mieux répondre. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que la permaculture, c'est à l'échelle de la parcelle aussi, hein, donc... C'est la petite goutte du colibri, quoi. C'est-à-dire que, oui, si on cultive son jardin potager, ou même si un maraîcher veut en faire un petit peu pour une partie de son exploitation, ça peut être jouable et intéressant. Et effectivement, ça va demander moins d'eau, moins de consommation d'eau, avoir des techniques d'association de plants, de végétaux qui vont faire qu'on va moins puiser dans les sols, etc. Mais à l'échelle de nourrir l'île ou nourrir une population sur un territoire de plusieurs milliers d'habitants, ça me semble pas être une réponse... importante, quoi. Enfin, c'est une réponse plutôt marginale que globale, quoi. À mon sens.
Ce que tu as dit est exact, mais ce que je voulais induire tout à l'heure, c'était quand même que la rétention d'eau, les soins qu'on apporte par la permaculture au sol, évitent les pertes d'eau par évaporation. Donc, c'est un travail, effectivement. Quand tu le considères à l'échelle des besoins, c'est pas aliment, ça ne va pas nourrir toute l'île, de même que les solutions qu'on peut apporter ne nourriront pas l'île, mais rien que, ne serait-ce que le paillage, par exemple, des sols, hein, ou la non-mécanisation des sols, qui font que, bon, mécaniser les sols, à la longue, ça diminue l'oxygénation des sols, parce qu'après le passage de l'outil mécanique, les sols s'affaissent quand même. Donc c'est plusieurs atouts. Donc pour répondre à la question, ça n'est pas la solution idéale, c'est seulement ce vers quoi on doit tendre, et ne pas l'oublier. Voilà.
Oui, je peux donner un élément d'appréciation du sujet, c'est une étude de l'INRA, qui a été publié l'an dernier, et qui montre que quand on fait l'agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'on ne perturbe pas le sol par la mécanisation, on fait de l'agronomie qui permet d'améliorer les sols dans le temps, on peut stocker de 8 à 15% d'eau en plus. Voilà. Et on a des exploitations qui, aujourd'hui, simplement en améliorant les sols, produisent 20% de plus avec 20% d'eau en moins, moins d'irrigation. Voilà, donc c'est un élément de solution, c'est pas la solution, mais c'est un élément de solution. Ces questions de relations entre eau et sol sont vraiment importantes. Et puisque j'ai la parole, j'en profite pour signaler que historiquement, il y avait quand même suffisamment d'eau à l'île-Dieu pour que, avant l'arrivée de l'eau du continent, il y avait quand même 5000 habitants qui consommaient quand même des légumes, du blé.
Alors, le blé n'était pas irrigué.
Je sais bien, mais ils consommaient des légumes quand même. Il y avait beaucoup de petits maraîchage un peu. Oui. Il y avait des usines qui utilisaient de l'eau aussi. Ouais. Bon, il y avait quand même de l'eau. Hein. Il y a de l'eau. Et je ne sais pas quelle est. Est-ce qu'on a une idée d'évaluation des quantités d'eau qui étaient utilisées à l'époque? Et par rapport à toute la quantité d'eau qui tombe sur l'île. Et puis une autre remarque, c'est que l'île s'est beaucoup boisée. Elle était complètement, il n'y avait pratiquement pas d'arbres. Et qu'en se boisant, il y a beaucoup d'eau qui évaporait, transpirait. Donc il y a beaucoup moins d'eau pour qui va dans les nappes, etc. à cause du boisement de l'île. Il y a un effet certainement qui est non négligeable.
Compléter ce que Guillaume disait, c'est que par l'habitat, on a utilisé des zones agricoles et qu'avant, les habitats étaient étaient localisés sur les zones où il pouvait y avoir de l'eau. Hein. Les puits, on ne les fait pas dans le marais salé, très peu, donc sur la dorsale granitique ou gnéissique, enfin peu importe, eh bien on a de l'eau. Et les puits étaient creusés autour des maisons d'habitation. Et que là, maintenant, l'agriculture se développe dans d'autres horizons, puisque, et où la terre est sûrement meilleure, hein, dans tout le bassin du Marais Salé, dans tout ce versant, mais c'est pas évident qu'on trouve de l'eau, à moins d'aller puiser dans les réserves des marais. Voilà, c'est tout.
Eh bien, oui, on va prendre juste une dernière question, et ensuite, nous clôturerons cette rencontre.
Merci beaucoup. C'est justement à propos de la question des puits. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de remettre en fonction ces puits? Et je voulais aussi savoir qui était l'approvisionnement naturel des maisons, donc ce que vous disiez, des habitations. Je voulais savoir ce qui était arrivé avec la nappe phréatique depuis l'arrivée de l'eau du continent, où apparemment l'eau du puits n'est plus potable. Je me suis toujours posé cette question.
Bon, déjà, il y a parmi les puits recensés, il y en a un certain nombre qui sont toujours en fonctionnement, donc qui servent toujours. Remettre en état les puits, oui, pourquoi pas. Certains, mais bon, après, un puits qui fonctionne et qui donne de l'eau, généralement, il continue de donner de l'eau, quoi, aujourd'hui. Donc, il y a par exemple des riverains de quartier ou même des agriculteurs qui puisent dans les puits aujourd'hui. Potable, je crois pas, non. Ça l'était, mais il faut faire analyser. Ouais. Après, bon, je ne maîtrise pas le sujet. J'imagine qu'il y a des pollutions diverses qui peuvent arriver aussi, plus depuis 50-60 ans que par le passé, et qui contribuent à polluer l'eau. Hein, donc, on est plus nombreux, il y a plus de pression, il y a plus de rejets.
Ouais. Il y a des réseaux d'assainissement individuel qui sont, peut-être en cause. Hein, puisque la diffusion dans le sol, qui n'est pas très perméable sur l'île, est moyenne. Donc petit à petit, ça peut s'en aller vers les puits. Et puis les puits sont d'autant plus pollués qu'ils ne servent pas. L'eau se régénère par les prélèvements, elle se filtre par les failles et tout. Et ça n'existe plus, donc ce sont des eaux dormantes.
Hein. Je voudrais juste apporter une petite précision. Sur la situation de l'eau il y a quelques décennies sur l'île Dieu. En 1946, un journaliste américain du New Yorker est venu, parce qu'il était déjà venu sur l'île en 1939, et il est venu voir ce qui s'était passé. Et alors, à l'hôtel des voyageurs, il a commencé à se laver les mains sous le robinet. Le patron de l'hôtel des voyageurs s'est précipité en disant « Monsieur, arrêtez, vous allez me ruiner. » Parce qu'effectivement, on manquait d'eau. et le patron de l'hôtel du voyageur avait besoin d'eau pour la vaisselle, pour un certain nombre de choses, et il était obligé de l'acheter. Et ça coûtait très cher, parce qu'il faut savoir que le raccordement avec le continent, ça a commencé vers en 1961. Et donc, l'eau était... Il y avait l'eau qu'il y avait, et puis il n'y en avait pas plus. Or, le même patron de l'hôtel des voyageurs a dit à son client, regardez le port, il n'y a pas de tonnier. Effectivement, les gros tonniers, avant la guerre, il y avait des tonniers et des sardiniers, les gros tonniers et les petits sardiniers. Mais les gros tonniers avaient besoin de, pour chaque campagne, besoin de 6 tonnes de glace par bateau. Et or, plus d'eau à l'île Dieu, donc plus de glace. Et donc les tonniers sont allés prendre comme port d'attache les ports sur le continent. Et c'est pour ça qu'il n'y avait plus de tonniers à l'île Dieu, à cause du manque de glace. Ensuite, on a essayé une usine, enfin un système de production d'eau de glace avec, à partir de l'eau de mer, qui a marché pendant quelques années. Mais ensuite, une fois le raccordement fait avec le continent, ce n'était plus nécessaire. Mais tout ça pour dire que le manque d'eau, c'est pas nouveau sur l'île. Merci.
Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Et merci à nos invités, Arthur Bouillet et Gérard Sage, pour leur participation.